Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Albert Einstein aurait un jour délivré ce conseil à une mère de famille. Si vous souhaitez que vos enfants soient très intelligents, lisez-leur encore plus de contes de fées. Vrai ou fausse, cette citation indique tout de même les vertus éducatives des contes de fées. Le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, Aladdin, la petite fille aux allumettes, Hansel et Gretel. Pourquoi tous ces contes de fées nous ont-ils marqués? Pourquoi sont-ils importants pour bâtir l'imaginaire des enfants? Pourquoi sont-ils des réceptacles à leurs peurs et à leurs angoisses? Pourquoi adorent-ils d'ailleurs les contes de fées effrayants? Pourquoi est-il important de leur raconter des contes de fées à haute voix? À quoi servent les archétypes qu'on y retrouve? Les contes de fées contribuent-ils à perpétuer certains stéréotypes de genre? Nous verrons comment le conte irrigue d'autres formes de fiction à destination des adolescents et des adultes. Élément de réponse ce matin avec nos invités. N'hésitez pas à nous dire quels sont les contes que vous adorez raconter à vos enfants, petits-enfants ou neveux. 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale. Une émission en partenariat avec l'hebdomadaire Le 1 à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil qui débute aujourd'hui. Bonjour Marie Perarnaud.
Bonjour Aline.
Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent?
Écoutez, aujourd'hui je vais faire la promotion des anciens contes de fées, vous en avez cité quelques-uns. Ils ont plein de bienfaits pour nos enfants, on verra
à
ça.
Tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Le petit poussé était très moche par rapport aux autres. Et puis il était très malin.
Qu'il est ingénieux, qu'il réussit presque tout. En plus, il a sauvé ses frères. En plus, c'était le plus petit. Et ses frères, ils ne pensaient à rien. Ils croyaient que l'ogre et sa femme allaient bien s'occuper d'eux. Mais l'ogre, il voulait les manger. Mais la femme, elle était gentille avec eux. Du coup, la femme, elle leur a dit de s'échapper.
Je crois qu'on peut faire des choses parce que quand on a l'âge, on peut, parce qu'on est peut-être petit, mais on peut faire plein de choses quand même.
Un extrait de Barbatruc sur France Inter le 29 novembre 2020. Bonjour Bernadette Bricou.
Bonjour Ali.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes professeur émérite de littérature orale à l'Université de Paris. Vous avez notamment publié La clé des contes aux éditions du Seuil. Bonjour Laurent Bazin.
Bonjour Ali.
Professeur à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialisé dans la littérature pour adolescents et jeunes adultes, notamment, vous venez de publier la littérature Young Adult aux presses universitaires Blaise Pascal. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Journaliste, rédacteur en chef du 1 Hebdo. En kiosque en ce moment, faut-il croire aux contes de fées?
Oui, oui, c'est un numéro du 1 des libraires que nous avons proposé à l'occasion, en effet, du Salon de Livres et de Presse Jeunesse de Montreuil, qui est notre partenaire, et dans lequel on se penche, en effet, sur ces contes de fées, les contes de fées ancestraux, et puis aussi les contes de fées tels qu'ils peuvent être écrits aujourd'hui. Il y a une deuxième feuille sur Le Petit Prince, et on s'interroge si est-ce qu'on peut réécrire ces contes de fées à l'aune, notamment, des revendications militantes sur le genre, sur la discrimination. Voilà, comment est-ce que tous ces éléments peuvent être pris en compte dans ces contes?
Bernadette Bricou. Le Robert nous dit que le conte est un récit de fées, d'aventures imaginaires destinées à distraire. Mais quelle est votre définition, Bernadette Bricou? Vous êtes l'une des plus grandes spécialistes du conte en France.
L'une des plus grandes amoureuses, ça me conviendrait mieux, parce que je crois qu'on va parler avec le conte d'une parole de désir. Mais moi, pour moi, le conte, c'est d'abord une parole venue de la nuit des temps. Une parole transmise de génération en génération pendant des siècles, quelquefois pendant des millénaires, puisqu'on a retrouvé des contes dans les papyrus égyptiens ou sur des tablettes issues des sables chaldéens. Et donc, le conte est une parole, un récit qui a connu l'épreuve du temps, qui est parvenu jusqu'à nous et dont on doit se demander pourquoi cette pérennité incroyable alors que beaucoup d'œuvres ont sombré dans l'oubli dans le même temps? À quoi ça répond? À quelle nécessité ça répond?
Alors je ne sais pas si tous les contes de fées débutent par « il était une fois », mais comment expliquer la puissance extraordinaire de ces quatre mots sur l'imaginaire?
Il était une fois, es war einmal, once upon a time. Dans toutes les langues, on a cet équivalent qui marque une entrée dans un autre monde. Et ce qui est très fort dans le conte, et évidemment ça devra nous interroger par rapport aux lectures contemporaines, c'est que le conte dit « Je suis une histoire inventée à plaisir, je vous emmène dans un autre monde ». Et il revendique ça, alors que la légende se donne elle souvent comme le récit d'événements réellement arrivés dont les acteurs sont connus. Le conte dit « Je suis une histoire inventée ». Pour votre bonheur et peut-être davantage pour vous être utile.
Il était une fois, c'est un insipide qui nous permet de traverser le miroir de l'imaginaire.
Il était une fois, c'est un, vous avez raison, c'est un insipide qui nous permet de passer un seuil qui nous dit que nous entrons dans un autre monde régi par d'autres lois et dont tous les chemins vont nous conduire quelque part. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde réel. Dans le monde réel, il y a beaucoup d'impasses, de chemins qui se perdent, de broussailles. Là, on sait que les chemins nous conduiront quelque part.
Laurent Bazin, sur la puissance du « il était une fois ».
Ah, je partage tout à fait ce que vient de dire Bernadette Bricout. Pour moi, c'est un peu l'équivalent des trois coups au théâtre. Hein, c'est un acte performatif, c'est-à-dire qui dit à l'auditoire « attention, on va changer de régime ». On va basculer dans une autre dimension, et donc c'est une espèce de signal, de seuil, un petit peu de clé, de porte qui nous fait passer dans un autre univers.
Et à la fin du conte, de la même manière, il faudra clore. Il faudra clore avec traditionnellement une formulette. J'ai passé par l'arrêt du blé et voilà mon conte achevé. Et on dit dans les sociétés traditionnelles que si on ne clôt pas, alors les esprits du monde restent en quelque sorte en désordre. Parce que le conte est une parole qui a, à laquelle on prête vraiment un pouvoir, non pas seulement sur les êtres humains qui l'écoutent, mais sur l'univers tout entier.
Julien Bisson.
Oui, c'est aussi, il était une fois un rapport au temps, un rapport à où nous situons-nous par rapport à un passé qui peut être mythique. C'est pour ça que dans les contes, bien souvent, on a ces animaux parlants, parce qu'on imagine que dans les temps immémoriels, on pouvait avoir ces animaux parlants. Donc là aussi, on a une rupture par rapport à notre monde, mais aussi une rupture temporelle qui est aussi très forte.
Bernadette Bricout, je ne résiste pas au plaisir de vous citer dans La Clé des Contes. Les contes disent à mots couverts quel secret se cache entre les feuilles du basilic, dans l'eau de la claire fontaine et la courbure de l'arc en ciel, parce qu'ils ont été transmis de génération en génération, portés par la parole vive, ils conservent en eux la trace de gestes et de mots ordonnés dans une trame où tout fait sens, invisible et pourtant présente, une trame où chatoie d'obscures merveilles depuis longtemps perdues pour nous, où l'on peut lire la longue histoire de l'univers.
Oui, merci de me citer, c'est toujours étrange, mais dit par vous, ça résonne beaucoup mieux, voilà, que quand je le lis moi-même secrètement. Oui, ce que j'essaie de dire là, parce que c'est quelque chose que j'ai éprouvé et que j'espère avoir fait partager aux étudiants de mes séminaires sur le quotidien merveilleux, c'est que ce que j'ai appris d'abord avec les contes, c'est à regarder le monde autrement. Dans le quotidien, et un quotidien qui est souvent un quotidien désenchanté, marqué par la routine, marqué aujourd'hui par des contraintes, par des inquiétudes, par des angoisses, on vit quand même en des temps incertains, mais d'une certaine manière, nous ne savons plus voir. Et nous ne savons plus voir les petites parcelles de merveilleux qui sont présentes dans la vie quotidienne, dans l'objet le plus modeste, alors ça peut effectivement être la feuille du basilic, ça peut être un objet que je vais même découvrir au supermarché. On va pas parler des contes ici, mais je pourrais en donner un exemple avec la devinette. Il y a une très belle devinette qui dit « Qu'est-ce qui a ses tétines sur l'échine ? Qu'est-ce qui a ses tétons sur le dos ?» On n'a pas le temps de chercher la réponse ensemble, donc vous donnez votre langue au chat. C'est le fromage lorsqu'il sort de la faisselle. Et quand je regarde un fromage sortant de la faisselle, eh bien aujourd'hui je me dis qu'il y a eu des hommes et des femmes qui les fabriquaient et qui ont pu faire œuvre de poésie avec ça. Donc, apercevoir le merveilleux au cœur de la vie quotidienne, pour moi, c'est très important.
Je ne regarderai plus la faisselle de la même manière, Bernadette Bricout. Laurent Bazin, sur ce que vient de nous dire Bernadette Bricout.
Moi, j'ai une vision un tout petit peu différente. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de l'aborder. Moi, ce qui me frappe, Parce qu'on a beaucoup parlé du conte comme retour au passé, un temps immémorial, ou ouverture vers un présent éternel, un historique. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la prégnance des contes dans le monde d'aujourd'hui. Le fait qu'ils soient partout. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde. Ben, je trouve qu'on pourrait penser qu'au 21e siècle, enfin dans un troisième millénaire marqué par la technologie à outrance, les réseaux numériques, enfin etc., le conte n'a plus droit de cité, il n'a plus sa place, il est trop enfantin, il est trop obsolète. Et pourtant, il est partout. Il est dans la littérature générale, les grands auteurs publient tous leurs contes, hein, notons... Chevillard, Angot viennent de publier des contes, donc en assumant ça, il est dans les fictions de l'imaginaire, dans les romans policiers, dans les thrillers, dans la littérature young adulte, il est partout. Il est dans les séries télé, dans les films, dans les jeux vidéo, dans les publicités. Donc il fait partie intégrante du monde contemporain. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que ça nous dit de notre monde? Pourquoi notre monde, qui se dit moderne, a-t-il besoin de recourir à cet outil immémorial?
Bernadette Bricout.
Oui, vous soulignez à juste titre cette espèce d'illusion rétrospective, mais qui est très ancienne, qui veut que dès qu'on parle des contes, comme d'ailleurs dès qu'on parle de la littérature orale et du folklore, on a l'impression que c'est derrière nous. Et Julien évoquait le fait, la dimension temporelle, ceci est maintenant du passé. Au XVIe siècle, Chicanou, qui est un personnage de Rabelais, dit déjà que toutes les bonnes coutumes se perdent. Au XIXe siècle, Nerval, qui recueille des chansons et des contes du Valois, dit « ces chansons et ces contes qui se perdent avec la mémoire et la vie des bonnes gens du passé ». Donc on a l'impression que le conte est derrière nous, alors qu'il est partout dans notre société, mais souvent de manière invisible.
Par exemple, Julien Bisson, quand on regarde une comédie romantique, il y a plein d'éléments du conte de fées que l'on retrouve.
Oui, parce que ce sont des structures narratives qui nous ont imprégnés, qui nous ont construits. Et ça dit aussi quelque chose du regard qu'on donne à ces contes. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a l'impression que les contes ne sont adressés qu'à la jeunesse. C'est d'abord oublier que ces contes, avant d'avoir été adressés spécifiquement à la jeunesse, ont été de la littérature orale partagée au sein de toute la population. Et que, certes, aujourd'hui, beaucoup de ces contes sont d'abord lus pour les jeunes, mais ils nous construisent et ils restent en nous comme un sédiment et comme, surtout, une littérature que tout le monde partage. C'est assez rare, c'est littérature, ces contes, ces récits que tout le monde a en partage. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer, vous parlez avec n'importe qui, tout le monde sait, tout le monde connaît l'histoire du Petit Poucet, tout le monde connaît l'histoire du Petit Chaperon Rouge, et c'est parce que ces structures-là sont là en nous que nous pouvons aussi réussir à les revisiter, à les réécrire, à en faire des parodies. Donc c'est pour ça aussi que ces histoires-là sont si commune à l'ensemble de la population.
Alors, ça me semble fondamental. On aurait tort de penser que le conte s'adresse uniquement aux petits-enfants. Il touche tout le monde. Les ados sont en demande considérable. Le conte est partout dans les fictions contemporaines romanesques ou télévisuelles. Et il est aussi pour les adultes. Tous les gens qui regardent Once Upon a Time, Into the Woods, etc., en série, qui en font leur nourriture culturelle quotidienne, ont besoin de se retrouver dans les contes.
Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme hautaine et fière. Cette femme avait deux filles, de même humeur qu'elle. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple.
En vérité, cette pauvre enfant n'était ni très heureuse, ni très choyée. Cette femme avait deux filles, deux péronnelles, deux chippies qui se pavanaient tout le jour, essayaient leurs plus beaux atours, abandonnant à Cendrillon tous les soucis de la maison.
Montage signé Claire Destacan, Bernadette Bricout. Comment expliquer la similarité de nombreux contes de fées à travers le monde? Par exemple, Cendrillon a connu des centaines de variantes de versions à travers le monde.
Oui, alors c'est une question qui a été longuement débattue, notamment au XIXe siècle. Il y a toutes sortes d'hypothèses qui s'affrontent parce que On a tantôt expliqué le fait que les contes sur les cinq continents se ressemblent et se répondent, hein, puisque ces versions s'appellent et se répondent comme dans une chambre d'écho. On l'a expliqué par des chemins de colportage, des chemins de colportage qui pouvaient être ceux des commerçants, des prêtres qui partaient évangéliser des pays lointains, des voyageurs, des explorateurs. Donc là, on était dans l'idée qu'il y avait un berceau des contes. C'est l'école indianiste, par exemple, qui disait que l'Inde, c'était vraiment le berceau des contes. On a eu des idées, des explications qui relevaient des archétypes. L'inconscient collectif est-il structuré partout de la même façon? Et donc là, on est plus près de Jung. On a eu d'autres hypothèses. L'idée que, par exemple, les contes seraient là, comme l'ultime souvenir de rites tombés en désuétude.
Bonjour Christine Appelé-Douel.
Bonjour Ali.
Journaliste à Psychologie Magazine et autrice de ces livres qui nous font du bien chez Marabout. Alors, l'une des explications de la similarité de nombreux contes à travers le monde, et Bernadette Bricout vient de le citer, est à chercher du côté du psychanalyste suisse Carl Gustav Jung. Hein, donc, grâce à deux notions qu'on lui doit, l'inconscient collectif et l'archétype, les archétypes.
Et qu'on retrouve bien sûr dans les contes, et en particulier dans les contes de fées, puisque les contes de fées ouvrent à une dimension supplémentaire qui est la magie. Et la magie, c'est la possibilité à la fois de transformer le réel et puis de le modifier. De modifier le réel, de transformer le réel et de réparer quelque chose. Donc voilà pourquoi, probablement, mais ce n'est pas évidemment la seule explication, mais en tout cas, c'est une dimension très importante, d'autant plus que Freud disait que l'inconscient ne connaît pas le temps. Donc qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte, en lisant ou en écoutant un conte de fées ou un conte tout court, on se reconnecte avec cette dimension inconsciente du récit. Et c'est évidemment une résonance importante qui permet de s'ouvrir à une autre dimension. Alors, vous avez parlé de l'imaginaire. Il y a aussi la dimension de la poésie qui est très importante.
Laurent Bazin.
Moi, je voudrais apporter un élément complémentaire à ce qui vient d'être dit. On vient beaucoup d'insister sur la notion d'invariant. Il y aurait des invariants psychologiques ou psychanalytiques renvoyant à des structures fondamentales qui perdurent, quelles que soient les aires géoculturelles, quelles que soient les époques. Moi, il y a autre chose qui me frappe dans le conte, c'est l'alternative à ça, le complément, c'est-à-dire sa malléabilité. Je trouve ce qui est très important dans le conte, c'est sa capacité, tout en gardant un modèle permanent, à modifier en permanence, à redistribuer tout le temps les significations dont il est porteur. Et ça, je pense que c'est une des explications de sa pérennité, c'est le fait que, parce qu'il est malléable, parce qu'il est capable de s'ajuster aux évolutions sociales, par exemple, il peut donner des réponses à chaque époque.
Bernadette Bricout.
Oui, vous avez raison, il est malléable parce que cette structure narrative, au fond, c'est une partition que chaque époque va interpréter différemment. Mais il y avait autre chose qui m'a beaucoup frappé dans ce qu'on vient d'entendre, c'est le fait que le conte est objet de recréation permanente, à la fois par celui qui raconte, parce qu'il peut vraiment imprimer au conte sa marque propre, mais aussi par celui qui écoute, car chacune d'entre nous écoutant le début du conte de Cendrillon entend une histoire différente, et une histoire qui fait sens pour lui, parce qu'elle pourrait un jour tomber sur lui. Donc, ma Cendrillon est recréation, et donc la malléabilité, elle existe aussi à l'intérieur de nous, parce que les personnages du conte sont des personnages sans épaisseur, comme ceux du jeu de cartes, comme ceux du théâtre d'ombre. Donc, chacun va pouvoir
s'y projeter.
Nougaro, ouais. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, ben, je vais pouvoir me faire mon cinéma avec ces personnages plats, dont je ne sais pas ce qui les met en route.
Julien Bisson.
Oui, cette malléabilité, cette plasticité du conte originel, du conte doit aussi nous rappeler que, avant d'être couchés par écrit, ils se sont transmis, ils ont été réécrits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a certaines adaptations de contes et on nous dit non, mais c'est pas fidèle au conte originel, il n'y a pas de conte originel. C'est pas parce que Charles Perrault, à un moment, a écrit les contes de ma mère Lois qu'il a fixé pour les siècles et les siècles ce que devaient être ces contes.
Écoutons Nicolas qui nous a laissé une note vocale, il l'appelle de Sisteron.
D'une manière très simple, c'est le moment d'échange entre la personne qui va conter et la personne qui écoute, là je pense à, au rôle de père, mais ça peut être aussi la mère, n'importe quelle autre personne. Et il y a un vrai plaisir à partager ce, ces histoires et à voir ce qui se passe dans les yeux de l'enfant ou des personnes qui écoutent. D'ailleurs, même les contes pour adultes, il y a une magie qui se crée, un plaisir.
Bernadette Bricout, sur ce que vient de nous dire Nicolas.
Oui, c'est vrai que ces histoires sont des traits d'union. Et puisque Nicolas évoque la relation parent-enfant, ce sont d'abord très tôt des traits d'union qui vont permettre à l'enfant, qui a toutes sortes d'apprentissages à faire, de faire des apprentissages de la vie et d'apprivoiser ses peurs. La peur, par exemple, de la nuit. Avant l'entrée dans le sommeil, on va compter à l'enfant, ou on va compter, alors là on est en quelque sorte la caisse de résonance de l'histoire, où on va le lui lire pour lui permettre d'entrer dans le sommeil et d'affronter des peurs qui sont aussi vieilles que l'humanité, parce que on parle de l'enfance, mais on pourrait parler aussi de l'enfance de l'humanité. Et si le soleil ne revenait pas, ça devait être une angoisse partagée à l'époque des cavernes, n'est-ce pas ?
Exactement, et on reviendra sur ces peurs et angoisses dans quelques minutes. Nous verrons également si le conte de fées contribue à perpétuer les stéréotypes de genre. En attendant, on écoute Dean Martin.
Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you.
If I had it in my power,
I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone.
Pas bien là, Julien Bisson, avec Dean Martin, Everybody.
J'ai envie d'écouter cette chanson devant une cheminée avec la neige qui tombe comme ça. J'ai l'impression, voilà, c'est le 1er décembre, le calendrier de l'Avent a commencé, c'est peut-être le premier cadeau.
Everybody loves somebody.
Hey, chaperon rouge, t'as pas sur un 06 ?
Grand bien vous fasse.
Non, je dois apporter des galettes à ma grand-mère.
À lire et BI.
Genre, t'es précis.
Je dois apporter des galettes à ma grand-mère.
Sur France Inter.
10h30 et on s'intéresse ce matin aux bienfaits des contes de fées, standard ouvert au 01 45 24 7000, où en laissant une note vocale, les enfants ont le droit de nous dire pourquoi ils aiment les contes de fées.
Mais dès les premiers pas, le petit poussé découvrit avec effroi qu'il ne restait plus une seule miette de pain. Affamés, eux aussi, les oiseaux les avaient toutes mangées.
La nuit tomba et un terrible vent se mit à souffler. Il souffla si fort que les sept frères crurent entendre des hurlements de loups venus de tous côtés pour les dévorer. Le petit pousset grimpa en haut d'un arbre et vit au loin une lueur qui lui fit penser à une chandelle.
Extrait du Petit Poucet, lu par Henri Dess. Alors, de nombreux contes de fées sont vraiment effrayants. Disney a édulcoré bien des contes. Dans certains contes de fées, on retrouve des fantasmes de dévoration. Dans le Petit Chaperon Rouge, par exemple, fantasmes de castration dans Hansel et Gretel, ou encore d'abandon dans le Petit Poucet. Bernadette Bricout, sur la fonction quelque part thérapeutique du conte de fées, qui permet aux enfants de réguler certaines peurs et certaines angoisses.
Oui, alors, et d'abord, quand même, il faut rappeler que les seuls contes qui étaient conçus à l'usage exclusif des enfants, c'est les contes qui se terminent mal. C'est-à-dire les contes d'avertissement destinés à les mettre en garde. Donc, il y a là quelque chose, c'était vraiment une pédagogie de la peur, par rapport à laquelle on a pris quelques distances, mais enfin, qui consistait vraiment à illustrer un interdit, la mise en garde à l'égard d'un danger possible par un conte qui se termine mal. À un enfant qui ne veut pas se laver les cheveux, pour la faire courte, on disait « Attention, si tu ne veux pas te laver les cheveux, les poux viendront, ils feront une corde de tes cheveux, ils te traîneront à la rivière et tu vas te noyer. » Et là, on se demandait vraiment si le shampoing n'était pas à tout prendre ou moins dangereux que la pédagogie de la peur qu'on retrouve d'ailleurs dans L'homme au loup de Freud. Enfin, alors ça, c'est un premier élément.
Et le conte, d'ailleurs, c'est une petite lumière dans les ténèbres. C'est le petit poucet qui grimpe à un arbre et qui perçoit au loin une petite lueur.
Ah oui, alors ça, c'est évidemment capital, parce que d'une certaine manière, quand il s'extrait du labyrinthe végétal pour monter en haut de l'arbre et regarder ce qui se passe par-delà la forêt, on est dans quelque chose qui est l'apprivoisement de la peur et l'apprentissage d'une liberté, parce que le conte est une école de liberté.
Laurent Bazin.
Pour donner un exemple très contemporain de cette fonction cathartique du conte, cette fonction thérapeutique, je voudrais prendre l'exemple des jeux vidéo. Parce qu'on pourrait se dire, jeux vidéo n'a pas grand-chose à voir avec le conte, alors qu'il me semble que ce sont deux univers très proches. Au fond, le jeu vidéo, comme le conte, c'est un espace virtuel, en marge de notre monde, mais auquel on peut accéder, et où on va retrouver un reflet, une mise en lumière de nos propres interrogations. Et il y a aujourd'hui de plus en plus de jeux vidéo qui utilisent le conte comme support narratif et qui l'utilisent dans une fonction thérapeutique. Je veux prendre l'exemple d'un petit jeu indépendant français qui s'appelle Férim et qui met en scène tous les grands contes, par exemple La Belle au Bois Dormant. Mais, sauf que quand vous êtes La Belle au Bois Dormant, quand vous jouez à ce jeu vidéo, vous êtes travaillé par des cauchemars qui arrivent de partout et vous devez lutter. Donc le but du jeu, c'est de faire face à ces cauchemars, d'apprendre à dompter ces peurs. Et je vais en donner un autre que je trouve personnellement très extraordinaire, qui s'appelle The Path, le chemin, où on peut incarner tour à tour sept petits chaperons rouges. Un chaperon rouge de 7 ans, de 9 ans, de 11 ans, de 13 ans, bref, toutes les étapes de la maturation. Et chacun de ces petits chaperons rouges va rencontrer son prédateur. Et à chaque prédateur, le petit chaperon rouge va mourir. Et donc on doit apprivoiser la peur de la mort, la découverte de ce qui vient après. Et donc, c'est une fonction de résilience très puissante.
Alors, Julien Bisson, un livre a marqué l'interprétation des contes. C'est La psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, qui a tout de même dit beaucoup de bêtises sur l'autisme. Mais sur les contes de fées, ces thèses vous semblent-elles valables? Je cite Bruno Bettelheim, « L'enfant est traversé par des angoisses, par des émotions et des sentiments violents, la peur, la colère, la haine, qu'il ne sait pas encore maîtriser. Le conte lui permet de s'identifier à des héros qui ont les mêmes problème et auquel il trouve des solutions, puisque la fin est toujours heureuse. »
Oui, Bruno Bettelheim juge que le conte fournit à l'enfant une sorte de langage pour affronter, comprendre d'une certaine façon des problématiques auxquelles il peut être confronté, y compris des problématiques qui sont totalement tabous. C'est pas simplement des peurs exprimées, ce sont aussi des tabous. C'est le tabou de l'inceste dans Peau d'âne, c'est le tabou de la dévoration, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que en lisant les psychanalyses des contes de fées, c'est très intéressant de voir l'analyse que Bettelheim fait de chaque conte et du rôle que chaque conte peut apporter. On a parlé de Cendrillon, pour lui, il en fait une lecture en disant ça permet de prendre place dans la fratrie. Comment est-ce qu'on fait avec des frères et sœurs qui ne sont pas forcément toujours bienveillants, comment Blanche-Neige, c'est la façon dont une jeune femme peut arriver à maturité sexuelle, et notamment face à sa mère qui vieillit. Blanche-Neige, Boucle d'or et les trois ours, on est cette fois-ci dans l'idée de l'identité. C'est où est-ce que je vais pouvoir trouver ma place et comment est-ce que je vais pouvoir acquérir mon identité. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de cette façon dont les contes nous montrent, vous parliez du petit chaperon rouge, des plusieurs petits chaperons rouges, mais c'est déjà le cas par exemple dans les trois petits cochons. Dans les trois petits cochons, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité pour l'enfant, il est c'est le même petit cochon. C'est-à-dire c'est le même petit cochon, les deux premiers qui se font dévorer, c'est ceux qui ont échoué. Et le troisième petit cochon, c'est celui qui aura appris de ses échecs précédents pour réussir cette fois à résister au loup, à trouver la clé.
Bernadette Bricout.
Bon alors, je vais m'inscrire en faux contre ce que vient de dire Julien, parce que on évoquait le fait que chaque lecture de conte est au fond nourrie de notre propre histoire. Et je voudrais juste évoquer, puisque vous dites, au fond, les trois petits cochons sont un seul et même personnage auquel je m'identifie le dernier, cette lecture d'un enfant, c'était un petit garçon, il avait 4 ans, et un jour, alors qu'il évoquait son amour des trois petits cochons, sa mère lui a demandé « Pourquoi tu aimes le conte ?» C'est une bonne question, parce qu'en général, nous n'entendons pas ce que disent les enfants. Et l'enfant a répondu « Maman, parce que c'est notre histoire. »« Ah bon ?» dit la mère, « Et pourquoi ?» Toi, maman, dit l'enfant, tu as toujours vécu dans des maisons en paille. Donc, quand le loup est arrivé, il a soufflé et ta maison s'est envolée. Tu es allé chez papa qui avait une maison en bois. Et là, le loup a soufflé, il a soufflé, mais quand même, la maison s'est envolée. Alors, vous êtes venu chez moi, d'où aucun loup ne pourra vous déloger. Il avait 4 ans et il était en train de recréer un roman familial. C'est vous dire à quel point chaque lecture est recréation. Alors, vous avez raison, globalement, c'est juste, bien sûr, mais quand même.
Laurent Bazin.
Oh, c'est juste une anecdote complémentaire. C'est Jules Hetzel, l'éditeur de Verne, bien connu, qui avait aussi réédité les contes de Perrault, illustrés par Doré, et qui racontait dans sa préface qu'il avait décidé de le faire parce qu'il racontait le petit chaperon rouge à une enfant de ses amis qui attendait avec impatience son goûter, qui était une galette. Et à la fin du conte, il voit la petite fille, il lui dit « Alors, tu as aimé ?» Il dit « Ah oui, j'ai adoré le loup, qu'est-ce qu'il est gentil !» Alors Hetzel était quand même très interloqué et il dit « Ben oui, il a laissé la galette
!» Bonjour Monique, bienvenue.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Alors, vous vouliez témoigner ce matin.
Hein ? Oui. Alors moi, je suis animatrice bénévole dans une association en milieu rural en Auvergne, j'anime des ateliers. Et avec les enfants, on crée ensemble des contes. Donc, ils donnent des personnages, une situation, et on crée des contes. Et ce que je voulais dire, pour aller dans votre sens aussi, puisque vous en parlez, d'abord que le conte est universel, vous avez raison, il n'est pas rien que pour les enfants, il est pour les adultes, pour tout le monde, il traverse le temps. Mais il est aussi thérapeutique. Et un petit exemple, par exemple, j'avais mon petit-fils qui avait peur du noir. Donc, j'ai inventé avec lui, il m'a donné un animal, c'était un ours. Qu'est-ce qu'il faisait ? Puis on a inventé une histoire. Et comme par hasard, cet ours, il se perdait dans une grotte où il avait peur du noir. Et puis, dans l'histoire, il s'est rendu compte qu'il avait des yeux spéciaux parce que il arrivait bien à voir dans le noir quand il faisait attention. Et du coup, mon petit-fils, il s'est pris au jeu de l'ours. Et puis il avait moins peur du noir parce qu'il disait je vais faire comme l'ours. Donc je crois aussi qu'il y a vraiment une notion thérapeutique et éducative, et que on peut le lier à beaucoup de choses, le conte, et l'aménager pour justement une valeur éducative, tout en gardant ce côté imaginaire et universel. Et ça, c'est fantastique.
Et la grande spécialiste du conte, Bernadette Bricout, boit du petit lait en vous écoutant.
Oui, parce que c'est vrai que le conte peut réparer les blessures, mais là, on évoque le cas d'un conte inventé, conçu pour répondre à la peur d'un enfant, pour apprivoiser la peur. Et je crois que tous les parents, confronté à l'angoisse d'un enfant ou parfois à une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre, ou bien ils y ont répondu par un conte, ou bien quelquefois ils en ont inventé un pour l'amour de l'autre.
Merci beaucoup Monique de nous avoir appelés et nous accueillons Maria. Bonjour Maria.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous vouliez témoigner ce matin également.
Oui, tout à fait. J'ai un petit garçon de 6 ans. Mmh. Et en fait, on m'a offert un recueil de contes. Et il commence par la princesse au petit pois. Mmh. Voilà. Et là, j'ai eu une incompréhension totale de mon petit garçon face à ce conte. Alors, j'éduque un petit garçon dans l'égalité. Je suis pas pure. à lui expliquer déjà tous les quoi. S'il pose des questions, on parle de genre et tout, mais voilà, je suis pas une activiste. C'est important, mais je le fais, on va dire, de manière tranquille. Et là, quand on lit un conte où j'ai pas compris le but de dire bon, on est quelqu'un de sensible, de belle, de parce qu'on sent un petit pois sous son lit et c'est bon, tu peux te marier, c'est une vraie princesse. Voilà. En écoutant l'émission ce matin, je me rends compte qu'il y a énormément de contes qui sortent des princesses et de ce genre, des choses très genrées. Mais mine de rien, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui, en 2021, des fois, surtout par rapport aux adjectifs qui sont utilisés. Voilà, il y a la place de la princesse.
C'est très intéressant ce que nous dit Maria Julien Bisson. Hein. C'est une question que se posent de nombreux éditeurs et qui proposent justement des réinterprétations de certains contes de faits canoniques.
Hein. Oui, on propose une enquête là dans Solin des libraires où justement on a interrogé beaucoup d'éditeurs qui proposent de nouvelles réécritures de contes, de certains contes qui peuvent poser... qui peuvent poser problème aujourd'hui, vu les attentes qui peuvent être faites et une volonté de dépasser certains, alors on a parlé d'archétypes, ça peut être aussi certains stéréotypes, notamment stéréotypes de genre, qui laissent souvent sous les personnages féminins soit dans des positions d'attente, des positions passives, soit des personnages féminins qui sont des personnages a priori mauvais, acariâtres, la figure de la sorcière est toujours très importante, ou celle de la belle-mère. Et donc il y avait en effet une volonté, mais qui est pas totalement récente. C'est assez ancien, cette volonté de proposer des nouvelles versions de ces contes. Alors ça peut être très important. La difficulté, c'est d'en faire simplement des pamphlets qui oublient totalement l'investissement émotionnel de l'enfant. C'est-à-dire que si on essaie d'en faire un pamphlet qui est simplement quelque chose qui joue sur une réécriture intellectuelle, mais qui met de côté l'aspect émotionnel, on risque de rater son coup.
Mais vous ne trouvez pas qu'il y a certaines polémiques qui peuvent apparaître comme absurdes sur la question du consentement dans Blanche-Neige ou dans La Belle au Bois dormant?
Oui, mais Bernadette Bricot le dira mieux que moi. Ouais. C'est imaginer... lire de façon totalement littérale ce qui se passe dans un conte, c'est en retirer le caractère symbolique. Et donc, il faut pas non plus lire tout au pied de la lettre.
Oui, par définition, le conte déborde toujours toutes les lectures qu'on pourra en faire. Et à partir du moment où on va lire le baiser du prince dans La Belle au Bois dormant comme un acte de prédation, parce que la belle dort... Et elle dira d'ailleurs dans la version de Perrault, mon prince, vous vous êtes bien fait attendre, ce qui semble bien indiquer que quand même cette arrivée était désirée. Mais à partir du moment où on réduit ça à quelque chose qui serait de l'ordre d'un acte de prédation ou d'affirmation d'un acte de non-consentement, on fait disparaître complètement la dimension poétique et symbolique du baiser qui ramène à la vie, comme les larmes de la belle ramènent la bête, vous savez, dans l'admirable film de Cocteau, à la vie aussi alors qu'elle est en train de mourir, ce qui est de l'ordre de l'amour qui nous fait vivre, qui allume le désir dans le monde et qui permet aux êtres de se réunir. Traiter le conte comme un document sociologique et seulement comme cela, justiciable d'une lecture monolithique, c'est d'une certaine manière faire disparaître son utilité même.
Et Anne-Laure nous écrit sur notre page Facebook « Quand je lis La Belle au Bois dormant à ma fille, au moment où le prince l'embrasse pendant son sommeil, je précise, il sait qu'il peut parce qu'avant de s'endormir, elle a dit qu'elle était d'accord. » Elle nous demande si c'est une bonne chose.
Je pense que c'est une bonne chose de raconter une histoire avec laquelle on se sent pleinement en accord. Une histoire qui non seulement ne nous désespère pas, mais qui nous nourrit. Et donc, si notre auditrice ressent la nécessité de le préciser, je crois que c'est bien. Mais il faut se dire aussi que l'identification du lecteur ou de l'auditeur à un conte, souvent elle se fait pas un personnage unique. Je peux m'identifier au petit chaperon rouge et peut-être au loup dans la version d'après. D'ailleurs, les enfants dans les jeux de rôle le font constamment. Et en général, on s'identifie moins à la grand-mère parce que d'une certaine manière, c'est un hors d'œuvre. Mais on peut discuter. Les identifications sont multiples.
Allez, il est 10h46, l'heure de retrouver la chronique Ma vie de parent de Marie Perarnaud.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut, bête.
Alors Marie Perarnaud, ce matin, vous voulez nous prouver que les contes de fées, souvent critiqués par les parents, font vraiment du bien à nos enfants.
Mais oui, et puis ça tombe à pic, hein, puisqu'on parle justement voilà, de tout ça. Alors j'ai procédé à une petite démonstration, si vous voulez bien accepter d'être mon cobaye ce matin. Ali, je vais vous demander de fermer les yeux. Il était une fois, Ali, une contrée magique et lointaine, un lieu enchanteur où la nature est reine, où les enfants gambadent au milieu des forêts sans coupe rase, où il n'y a ni Omicron, ni masque FFP2, ni doigt d'honneur mal placé. Un royaume perdu où on ne craint ni les variants, ni les migrants, ni les perturbateurs endocriniens que pourraient éventuellement contenir rouets et quenouilles. Prépare, ça fait du bien.
Ah oui.
Cette petite intro onirique, on est d'accord. Alors vous venez, Ali, de goûter à l'incroyable pouvoir de l'imaginaire. Et c'est exactement ce que l'on cherche, nous, parents, lorsqu'on lit des contes de fées à nos enfants, à s'échapper un instant du monde réel. Et alors, ça vous paraît évident et ça nous paraît évident à tous ce matin, mais il me semblait important de le réaffirmer, car en 2020, le conte de fées n'est plus tout à fait tendance chez les parents.
Et pour quelle raison ?
Alors, on l'a vu un petit peu ce matin, les contes de fées, qu'ils soient de Grimm, de Perrault ou encore de Disney, les versions édulcorées dont on a parlé, ils sont caduques, ils sont obsolètes. Ils transmettent à nos enfants des rôles sociaux plutôt moisis, et j'entends par moisis qu'ils nous montrent des princes dits charmants, parcourant fièrement le monde sur des poneys fougueux, pourfendant dragons et nains agressifs. Tandis que les princesses, c'est mes mères, se calent des petites siestes, mangent des pommes, font un brin de ménage en attendant le susmentionné prince. Bourré de stéréotypes, principalement sur les femmes, on l'a dit, ces contes auraient donc, et on l'entend bien, un impact négatif sur le développement psychologique de nos enfants et sur l'assignation des rôles sociétaux.
Raison numéro 2.
Alors raison numéro 2, les contes de fées sont un peu glauques à tendance sanguinolente, c'est vrai.
Bon courage les bambins. On misère, on blâme, on assassine. Les contes de fées, ça craint. Rivière de larmes, hémoglobine.
Il était une fois.
Ce soir, vous choisissez de lire à votre enfant un bon petit Cendrillon de chez Grimm. Eh bien, vous allez devoir avouer à votre chérubin que pour rentrer dans la fameuse pantoufle, eh bien, les frangines ont dû se trancher l'orteil, le talon. Ça pisse le sang, évidemment. Pompons sur la Garonne, elles se font picorer les yeux par des colombes en guise de punition. Allez, bonne nuit, mon petit chéri. Et alors, Disney n'est pas en reste, hein, les visionnages. Voilà, bah, je vais même pas en parler parce que Bambi, je suis dans le déni total du décès maternel depuis 35 ans, donc je préfère qu'on évite tout ça. Donc, on en parlait tout à l'heure avec vous, Julien. L'apparition, c'est tant mieux, de contes de fées dits modernes, des princesses homosexuelles, des princes en quête de tranquillité, des petits chaperons verts, des loups plutôt sympas qui laissent des galettes. C'est une évolution qui est nécessaire. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant de pouvoir proposer, nous, parents, à nos enfants de ces nouveaux contes, des contes qui parlent de ceux qu'ils vivent et des contes qui parlent de ceux qu'ils voient. Mais alors ce matin, j'avais quand même envie de vous dire, parents, pitié, ne liquidez pas vos vieux contes de fées, ne les balancez pas dans les boîtes à livres avec vos vieux tchoupis. Ils sont constitutifs de notre histoire, ils ont été notre premier imaginaire, celui de notre enfance. Alors oui, ils sont cruels, ils sont sanglants, ils sont drôles et magiques aussi, même s'ils sont également contestables et parfois même condamnables. J'ai une certaine tendresse de mon côté pour les contes de fées qui portent un peu de mes rêves d'enfance et de mes angoisses de devenir grande. Les relire, c'est un peu comme garder le contact avec ce que nous étions, c'est comme partir un petit peu plus loin, c'est comme s'autoriser à être absent un moment. Et si vous me le permettez, j'avais envie de terminer sur cette phrase qui n'est ni de moi, ni de Grimm, ni de Tchoupi, mais de Paul Auster. L'imagination, c'est l'art de donner vie à ce qui n'existe pas, de persuader les autres d'accepter un monde qui n'est vraiment pas là, qui n'est plutôt pas vraiment là.
La chronique Ma vie de parent de Marie Perarnaud à podcaster et à partager sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, le choix de quelques contes. Tiens, Julien Bisson, il a un conte à nous conseiller dans quelques instants. On écoute Il y en a.
tu m'aimes demain, on sera des stars à 70-80 qui se cachent leurs gars, qui rêvent plus loin. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs sur nos jeans troués, on dessinera aux fans des cœurs. Si tu m'aimes demain, on regardera Paris la semaine en émeute, le week-end on fuira la ville. Si tu m'aimes demain, à la télévision ils passeront nos chansons, fausse poésie, on sera peut-être des cons. C'est voir la vie à deux.
Si tu m'aimes demain.
Que signifie apprivoiser ?
Cela signifie créer des liens.
Grand bien vous fasse.
Pour toi, je ne suis qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre.
Sur France Inter.
10h53 et on s'intéresse ce matin aux bienfaits des contes de fées. Écoutons Boris Cyrulnik.
Il se dirigea alors vers eux, la tête basse, pour leur montrer qu'il était prêt à mourir. C'est alors qu'il vit son reflet dans l'eau. Le vilain petit canard s'était métamorphosé en un superbe cygne blanc. Vous ne soupçonnez pas le nombre de gens qui disent « Je me suis longtemps considéré comme un vilain petit canard ». Donc je me suis dit « Ce titre parle à beaucoup de gens, donc je vais prendre ce titre ». Un peu parce qu'Andersen a trouvé là, c'est presque un mythe, hein, c'est-à-dire qu'il met en fable l'histoire de quelqu'un qui se sent moins que les autres, jusqu'au jour où il découvre qu'il peut devenir humain à son tour, il peut devenir cygne à son tour. C'est-à-dire qu'il y a quand même un programme commun de la psychologie où quand on est face à une épreuve, on a tous à peu près les mêmes mécanismes de défense et ceux qui s'en sortent ont des leçons à nous donner parce que on peut leur demander comment ils ont fait pour s'en sortir. Donc effectivement, c'est un cygne qui fait cygne.
Le psychiatre Boris Cyrulnik sur France Culture en 2001. Alors au terme de cette émission, Julien Bisson et Christine Pelledouelle, vous êtes encore avec nous. Je vous ai demandé de choisir des contes que vous affectionnez. Julien Bisson, vous aimez lire Le vilain petit canard d'Andersen à votre fils.
Oui, et pour les raisons que Boris Cyrulnik vient d'expliquer. Et d'ailleurs, c'est assez frappant, Le vilain petit canard. Parce que je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit un vrai conte. Je veux dire, par là, c'est un récit d'Andersen dont on sait a priori que c'est un récit d'inspiration biographique, autobiographique. Et ce vilain petit canard qui devient un cygne, ce n'est pas parce que il va réussir à affronter les épreuves, c'est pas parce qu'il va grandir qu'il va réussir à trouver sa place, mais plutôt en changeant de famille, en changeant d'univers. Et donc, c'est vraiment un conte qui me fascine beaucoup, et je pense qu'il fascine aussi tous les enfants. En l'occurrence, mon fils, quand je lui lis, je pense qu'il trouve quelque chose de sa propre étrangeté qui peut essayer d'interroger.
Bernadette Bricout, professeur émérite de littérature.
Le conte, oui, le vilain petit canard, mais tous les contes merveilleux nous parlent du destin d'un héros ou d'une héroïne handicapée à l'origine, par l'âge, par le sexe, par le physique. Ils sont laids, ils sont pauvres, ils sont sots parfois, et ils sont le cadet de la famille dans des sociétés qui ne connaissaient que le droit d'aînesse. Or, le conte nous dit que chacun d'entre eux fera sa place au soleil après avoir traversé des épreuves. Vous disiez tout à l'heure que le conte nous éloigne du réel. En tout cas, on dit souvent cela. Moi, je ne crois pas qu'il nous éloigne du réel. Il nous propose un détour pour nous permettre de donner sens à notre propre vie, de prendre du recul par rapport à ce qui est important, de faire le vide aussi pour écouter ce qu'un beau conte appelle la musique du cœur du monde.
Laurent Bazin, professeur de littérature.
Juste un petit complément à ce que disait Bernadette Bricot, en disant que tout conte met en scène quelqu'un qui est défavorisé au début, qui arrive à trouver sa place. Le plus grand succès éditorial des dernières 20 années, qui est Harry Potter, est la réécriture d'un conte, puisque au fond, c'est une vaste déclinaison sur le conte de Cendrillon.
Et vous, Christine Appelé-Douel, quel est votre conte préféré ?
Alors, un conte que j'aime vraiment beaucoup, c'est curieux, c'est amusant, parce que là, on retrouve les cygnes, alors qui ne sont pas d'anciens petits canards. Ce sont les cygnes sauvages d'Andersen. Cette histoire merveilleuse et terrifiante de cette jeune princesse, Elisa, dont les frères sont victimes d'un sort, évidemment par la méchante belle-mère, parce que la belle-mère est toujours... Derrière la belle-mère se cache toujours une sorcière. Et ces garçons transformés mais en cygne, la princesse peut leur redonner vie à deux conditions, qu'elle tricote des manteaux en ortie, donc on imagine la douleur extrême, et qu'elle se taise. Il y a donc deux choses extrêmes dans ce conte pour permettre d'accéder à la forme humaine et à l'âge adulte, donc je suppose que ce sont des adolescents, c'est d'une part l'épreuve et le silence, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et j'adore ce conte qui m'a toujours fascinée, que je connais depuis que je suis enfant. Je ne sais pas s'il est très très souvent raconté, mais moi je trouve que c'est un conte d'une richesse tout à fait particulière.
Et vous, Julien Bisson, pour terminer, vous aimez également le côté amoral du Chaboté de Charles Perrault, hein ?
Oui, le Chaboté, vous savez, c'est ce troisième de la famille à qui on donne un chat parlant et qui va l'aider à devenir le marquis de Carabas. Et c'est le triomphe de la ruse sur la force qui est matérialisé avec cet affrontement contre l'ogre. Je vous souvenez forcément de cet affrontement où le chat demande à l'ogre de se transformer en beaucoup d'animaux et puis à la fin il dit mais est-ce que tu es capable de te transformer en souris, et le chat dévore la souris. Et en effet, il y a un petit côté parfois un peu amoral dans ce conte-là.
Hein.
Mais oui, j'aime bien ça.
Merci à tous. Merci beaucoup Bernadette Bricout d'être venue ce matin. Je conseille la saine lecture de La Clé des Contes publiée au Seuil. Merci beaucoup Laurent Bazin d'être venu ce matin. Merci Christine Appelé-Douel et merci Julien Bisson. Faut-il croire aux contes de fées est disponible en kiosque jusqu'à fin janvier, c'est ça ?
Exactement.
À demain dans Grand Main Vous Fasse.